deux ou trois idées sur les neuroleptiques. J'insiste un petit peu sur les neuroleptiques parce que comme ça a été un petit peu la première famille à débarquer, elle sert de modèle aux autres. Quoi. Et une fois qu'on a compris les différentes phases avec les neuroleptiques, après c'est assez facile de voir sur les autres familles. Quoi, parce que, ça se ressemble quand même, hein, pas mal. Quoi. Donc si vous voulez d'abord, alors on avait vu deux ou trois choses sur la psychose. Et donc, ensuite, on a essayé de voir quelles étaient les molécules antipsychotiques qui, donc, contre un certain nombre d'effets de la psychose, les hallucinations et le délire. Et on a un petit peu aperçu le mécanisme d'action en découvrant que les neuroleptiques avaient une structure commune, qu'on appelle la formule de Jensen, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la structure de la dopamine. À partir de ce moment-là, bien entendu, on a commencé à comprendre que les neuroleptiques interféraient avec la dopamine, avec le métabolisme de la dopamine, et progressivement, on s'est aperçu que c'était au niveau des synapses, des neurones à dopamine, que les neuroleptiques venaient bloquer les récepteurs à dopamine. Donc, et plus particulièrement, je vous reviendrai dessus un petit peu, les récepteurs des deux. Il y en a cinq au moins. Et plus, et donc on les appelle D1, D2, D3 et autres. Alors, il nous reste à voir quand même un peu les effets secondaires, puisque vous avez bien compris que lorsqu'on prend une substance, elle agit, mais elle agit pas que là où on voudrait qu'elle agisse. Elle agisse partout dans le système nerveux, et comme on sait que ça joue sur les neuromédiateurs, bien entendu, c'est tout azimut, quoi, avec des cibles plus ou moins favorable. Donc on a un effet primaire qui est de bloquer les symptômes de la psychose et surtout de la schizophrénie. Et puis on a les effets secondaires qu'il faut bien envisager. Donc ça veut dire que ces neuroleptiques ne peuvent être utilisés qu'à l'hôpital. C'est quand même à peu près ça. Au moins dans la phase initiale. Pour que le praticien, c'est-à-dire un psychiatre, puisse observer le comportement du patient. Et puis surtout la chevetaine, et puis les infirmiers et autres aussi, et puissent parer à toute éventualité, puisqu'il y a des effets secondaires qui peuvent être dramatiques. Donc ça veut dire qu'en rentrant à l'hôpital, ou à la clinique, ou à je ne sais quoi, enfin une structure médicale, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Et c'est ce que je voudrais commencer à vous donner. Donc avant et pendant et après éventuellement le traitement par des neuroleptiques, il y a plusieurs examens à faire. Et le tout premier, c'est la numération de la formule sanguine. Et comme ça, parce que ça permet d'avoir le témoin du sujet avant qu'il n'ait pris le moindre comprimé ou la moindre goutte de neuroleptique. On fait un degré zéro. Alors, si jamais il se passe un certain nombre de choses sur la formule sanguine, alors à ce moment, on peut dire, bon, ben, ça vient du traitement, ou autre. Sinon, on ne peut rien savoir. Deuxième chose, c'est le bilan hépatique. Alors, pour les mêmes raisons, et bien entendu, ça, c'est facile à comprendre, c'est que les neuroleptiques sont des substances étrangères. Hein. Bon, d'accord, elles interfèrent avec les neuromédiateurs, mais elles sont quand même étrangères. Et il s'agit de les détruire et de les éliminer. Et pour ça, on a un organe qui est adapté. Mais Dieu, il en paye le prix fort avec certains produits à éliminer. C'est-à-dire, ce sont ces cellules, les hépatocytes, qui des fois disparaissent. Donc, la première chose, c'est de faire le bilan hépatique. Ensuite, c'est le bilan ophtalmologique, parce qu'un certain nombre de neuroleptiques provoquent des dépôts sur la rétine, et même pas que sur la rétine, sur tous les pigments, sur tous les tégments, je veux dire, en particulier les paupières, et c'est surtout les phénothiazines. Donc quand le praticien envisage de donner du largactyle ou autre chose, ben, hein, c'est bien pratique d'avoir le bilan ophtalmologique. Ensuite, la glycémie, pour pouvoir voir s'il n'y a pas une hyperglycémie ou un bouleversement sur le métabolisme des sucres. La vitesse de sédimentation, bien sûr. Et puis, le dernier élément de routine, un EEG, un électroencéphalogramme, et puis, bien sûr, un électrocardiogramme. Alors, l'EEG va être regardé assez attentivement pour voir s'il n'y a pas d'anomalie du tracé de l'EEG, tout simplement parce qu'on a les pires ennuis avec des personnes qui sont épileptiques ou autres. Donc, non, ça peut ne pas être connu du sujet, et donc, voilà, on fait le point exactement comme un avion avant de décoller, fait point zéro. Bien alors, une fois qu'on a toute la panoplie, eh bien, les praticiens connaissent quand même un certain nombre de propriétés des différents neuroleptiques, qui ne sont pas que neuroleptiques, bien sûr. Hein, ils ont un large spectre, si vous rappelez bien, le largactyle, hein, c'est une large action. Et donc, on a des tableaux qui permettent un petit peu de se repérer. Alors, voilà par exemple différentes familles des neuroleptiques, alors cette fois sous la forme de leur action. Les neuroleptiques qui sont essentiellement sédatifs, alors par exemple le chef de file c'est le nosinant, ou tertian, leptine et l'argactyle, bien sûr. Et puis vous en avez d'autres qui sont moins sédatifs et qu'on va appeler même neuroleptique polyvalent, c'est-à-dire ils vont agir un petit peu sédatif, un petit peu sur l'inhibition, un petit peu sur un certain nombre de choses, puis vous en avez même qui sont encore intermédiaires. Et donc à ce moment, ils s'appellent neuroleptiques moyens, comme le dipiperone, l'étumine, le naleptide, le méléride, ou bien pour les neuroleptiques polyvalents, l'énergie, le rap occurrent, aldol, sédalant, moditen, pivotif, par exemple. Puis enfin, vous en avez une autre catégorie qui sont vraiment des inhibiteurs. C'est-à-dire, comme vous rappelez, dans ce que j'ai dit sur la schizophrénie, il y avait deux grandes familles. Les patients qui vont donner beaucoup de matériel, d'hallucinations ou de délires, et puis d'autres qui, au contraire, sont toujours en retrait, plutôt dans le moins que dans le plus, et ça se traduit par une grande inhibition, une grande timidité maladie. Alors là, à ce moment, les neuroleptiques agissent de préférence, et donc le loxapac, le thémaquine, dogmatine, etc., magétine, par exemple. Et donc, du coup, on a finalement ces différentes familles qui permettent d'agir de deux façons, soit sur un pôle sédatif, soit sur un pôle désinhibiteur. Et que donc la clinique, c'est-à-dire l'observation du patient dans sa vie quotidienne, permet au psychiatre de définir, bon d'accord c'est une psychose, d'accord c'est une schizophrénie, mais est-ce qu'elle est plutôt inhibitrice ou bien est-ce qu'elle est plutôt agitée? Voilà. Et bien, alors à ce moment ça lui donne une idée où est-ce qu'il va se positionner sur la grille. Alors si c'est vraiment quelqu'un de très agité, alors à ce moment, pas de doute, s'il est très très agité, comme je vous le disais, quelqu'un qui arrive et qui a fait des coups de feu, on ne cherche pas à comprendre. Hein, voilà. On peut pas intervenir. Si jamais, bon, il est un peu agité, mais enfin, bon, il estime que c'est quand même maîtrisable, alors souvent ça va être l'argactyle, hein. Et puis si vraiment c'est quelqu'un qui est vraiment trop inhibé, alors à ce moment, il va prendre le bas du tableau, la magétine ou l'oxapac, par exemple. Voilà. Et puis si il y a de l'agitation, mais il y a en même temps de l'inhibition, et puis en même temps, je ne sais pas quoi, des hallucinations, alors à ce moment, il prend le milieu du tableau, voilà. Alors, il va essayer l'aldol, par exemple. Voilà, si toutefois. Toutefois, il a de bonnes vibrations, il a le dol. Bon. Voilà, ça vous donne une petite idée de... Non seulement on a un clavier qui est assez énorme, mais chaque molécule va avoir une action qui va être préférentielle pour tel et tel type de comportement. Et que du coup, ben, oui, il faut avoir observé pendant quelques jours la personne. Quoi. Ça ne se fait pas simplement pied à coulisse. Quoi. C'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Quoi. Oui. Le dépamide. Oh, non, mais le dépamide, c'est un anti-épileptique. Non, non, ça, c'est des neuroleptiques, là. Alors, prenons encore un petit peu, rentrons un petit peu dans la subtilité de l'homme de l'art. En fonction du comportement, des réponses, de l'agitation, de l'inhibition ou autre, le praticien pense à plutôt tel type de molécules. Maintenant, il faut l'essayer pendant quelque temps. Or, ici on va l'essayer, mais il faut à peu près 3 semaines pour imprégner l'ensemble des récepteurs. Donc, c'est-à-dire que l'observation doit être assez longue, quoi. Donc, on essaye. Mais il se pose une nouvelle question. Je choisis l'aldol, par exemple, à quelle dose j'attaque le système? Ben là, on tombe sur un truc où là, c'est vraiment le métier. Hein. C'est-à-dire, bon, une dose moyenne, plus ou moins recommandée peut-être dans le Vidal ou ailleurs, ou par les visiteurs médicaux, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, ça, c'est l'expérience qui dit, bon, voilà, selon l'âge du capitaine, selon s'il y a du vent, je vais prendre tel machin. Et puis, ensuite, si la cheftaine en réunion d'équipe dit oh là, alors vraiment là c'est trop, vraiment il est complètement prostré sur son lit, bon bah alors bon, on va diminuer les doses, hein, et puis etc. Enfin, il y a des ajustements, on diminue, puis après, oh là, il est agité comme une toupie, bon, et puis si vraiment il ne supporte pas pour tout un tas de raisons qu'on va voir, ben à ce moment on change de molécule, quoi, hein, voilà, il y a un nouveau candidat. Donc là, ça vous donne déjà une petite idée que. C'est pas aussi simple, bon, diagnostic comme voudrait nous faire croire le DSM-4, et puis paf, il y a juste la molécule qui convient, parce que c'est Hoffmann-Laroche qui l'a produit, quoi. Hein. Bon, c'est pas tout à fait comme ça. Alors, deuxième chose, on a une dose. Okay. Et là, il faut voir que selon que c'est une dose forte ou faible, ça va pas avoir du tout les mêmes effets. Et que donc, il va falloir encore, là aussi, jouer mollo. Alors, prenons par exemple le nosinant. À dose faible, il est sédatif. Il vous fait dormir. Très sédatif. Alors, bon, ça c'est bien connu. Mais si jamais vous forcez sur la dose, il n'est plus du tout sédatif. Il est juste antiproductif. Antiproductif, ça veut dire il va contrer les hallucinations, mais pas l'agitation, et donc le démon risque de briser les portes. Quoi, hein. Voilà, et vous voyez que pour le tertien, c'est la même chose, mais les rimes et les sédalantes, c'est la même, à peu près la même catégorie. Si maintenant on prend le largactyle, on s'aperçoit qu'à faible dose, il est un peu sédatif, un peu moins que le nosinant, donc il peut convenir, mais que si on met des fortes doses, alors à ce moment, il est vraiment antiproductif. Et pareil pour l'aldol, là, il est très peu sédatif à faible dose et très très antiproductif à forte dose. Voilà. Mais en même temps, on voit que vous avez encore une nouvelle fonction qui apparaît, il est antidéficitaire très faiblement. Et donc, du coup, forcément, le psychiatre qui connaît son affaire, en fonction du patient qu'il a en face de lui, il va commencer à faire des calculs de savoir quelle est la molécule. Donc, ça lui permet de choisir et d'essayer sans prendre trop vite. Alors, si maintenant on prend ces deux catégories-là, on voit qu'on a seulement trois dosages possibles, hein, le modidem, par exemple, à très forte dose, il est juste un tout petit poil sédatif, mais très antiproductif et assez bien antidéficitaire. Et puis, le CEMAP, par exemple, lui, à très forte dose, il n'y a aucun effet sédatif. Par contre, il est très antiproductif à forte dose et antidéficitaire à faible dose. Voilà, donc, pas la peine d'épiloguer, mais vous comprenez qu'il y a 50 000 façons de voir un petit peu comment le médecin va adapter la molécule au patient, non seulement la catégorie, mais en plus la molécule elle-même et en plus son dosage. Quoi. Oui, oui.
Vous entendez quoi par antidéficitaire?
Oui, déficit, c'est quand c'est de l'inhibition, quand la personne est en retrait. Il ne parle pas, il ne pense pas, il ne peut pas lire, il ne peut. Voilà, c'est toujours du négatif. C'est déficit de la pensée. Voilà, donc du coup, là, vous avez donc ces états de conscience, finalement, qui sont très différents, et on voit que selon la molécule, selon le dosage, vous avez des effets qui sont tout à fait différents. Voilà, on peut le généraliser, hein. Je crois que c'est empirique. Mais quand même, vous touchez du doigt que c'est possible d'analyser l'appareil psychique avec ces molécules, quoi, avec non seulement les molécules qui sont très diverses, qui agissent donc différemment sur les différents récepteurs et sur les différents neuromédiateurs et sur tout un tas de choses, mais aussi selon le dosage. Là, on voit bien que la psychopharmaco est un outil pour pouvoir étudier le psychisme. Là, c'est très clair. Et c'est un bon complément par rapport à l'imagerie cérébrale. Alors, une fois que ça s'est entendu, alors maintenant, voyons le tableau des réjouissances, hein, c'est-à-dire les effets secondaires. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à ces neuroleptiques? Et bien sûr, vous savez que surtout le mouvement antipsychiatrique a été très virulent contre les neuroleptiques. Bon, Lang et Cooper, par exemple, hein, mais beaucoup d'autres. Et le mouvement en France a été assez fort dans les années 70. On a appelé les neuroleptiques la camisole chimique, quoi, en gros. Hein. Donc, ça veut dire que, même si ça ne fait pas la une des journaux, parce qu'il y a quand même toujours un problème. Alors, on a une multitude d'effets secondaires, et la première catégorie, c'est ce qu'on appelle des accidents. C'est un peu un euphémisme, hein, entre guillemets, grave.
Ben d'accord. Et c'est effectivement grave.
Pas de peau, quoi. Alors là, c'est pas un tic du langage. Hein, là. Non, bien sûr, mort subite. Et puis, des problèmes avec la formule sanguine. Non. Granulocyte qui commence à tourner de l'œil, A privatif, A granulocytose, un ictère, bon, le problème hépatique, on peut dire, c'est simple, et puis ce qu'on appelle le syndrome malin. Voilà, alors, quand même, pas de panique, c'est assez rare. C'est rare, mais bon, d'où quand même la précaution des médecins de prendre les mesures de précaution qui s'imposent, c'est-à-dire de bien vérifier si le patient n'est pas épileptique, n'a pas eu des fractures du crâne, n'a pas eu tout un tas de fragilités possibles et imaginables qui permettent de comprendre que là, le sédatif risque d'être fatal. Quoi.
C'est quoi le syndrome malin?
C'est ça qui explique que c'est rarissime quand même.
C'est quoi le syndrome malin?
Oh, c'est une vacherie, comme son nom l'indique. Je ne suis pas sûr de ne pas vous dire de sottise, mais. Voilà, alors voilà, c'est l'état de choc. La réanimation est indispensable. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire un casse dans une apothicairie, hein, et puis de se morfaler des trucs comme ça, quoi. Hein. Bon, voilà. Alors, je pousse un peu plus loin. Il se caractérise par une pâleur extrême, suivie d'une hyperthermie importante, 40-41 degrés, avec déshydratation massive, exacerbation des symptômes neurologiques, rigidité, contracture, convulsion et troubles de la conscience, hébétude. Mortel dans 11 à 25% des cas. Ben il touche environ 1% des sujets traités. Donc, bon, il y a un risque. Il y a un risque, et bien entendu, c'est ça qui vient quand même réinsister. Bon, c'est pas une histoire de généraliste, c'est une histoire de psychiatre. Parce que le psychiatre, s'il doit tripoter de la nitroglycérine, ben, il le fait dans une institution médicale. Voilà, c'est tout. Et bien entendu, la cheptaine qui a 30 ans dans le service, bon, elle a l'œil, le client qui est sous neuroleptique. Hein, dès les premières minutes, bon, il est plus que surveillé. Et s'il y a quoi que ce soit, bah, alerte générale, et puis la réanimation est pas loin. Est-ce que vous êtes dans les monts du Lyonnais, vous bouffez vos pilules, bon, bah, c'est râpé, quoi. Bon, voilà. Alors, bon, n'insistons pas, parce que c'est quand même. Alors, les cas particuliers. Eh bien, bien entendu, les enfants, les vieillards, les femmes enceintes. Ça, c'est facile à comprendre. Les femmes enceintes, ce n'est pas la femme elle-même qui est vraiment perdition, c'est bien sûr l'embryon, quoi, hein, ou le fœtus, selon. Parce que lui, alors, les doses qu'il a, c'est comme pour l'alcool. Quoi, hein. C'est pas tant la femme qui nous inquiète, mais c'est vraiment, si elle est enceinte, bon, quand vous faites le calcul de ce qui débaroule sur le cerveau de l'embryon, c'est invraisemblable, quoi. Les enfants, c'est facile à comprendre, ils sont en train de construire leur cerveau. Si on vient tripoter les neuromédiateurs, bon, à tant faire, autant prendre l'homéopathie, hein. C'est vrai. Si ça pouvait faire la même chose. Et puis les vieillards, ben ouais, ils sont en bout de course. Et donc, ce qu'on sait toujours chez les vieillards, c'est que les fonctions commencent à s'user. Et comme il faut éliminer, comme il dirait Chipulti, ils éliminent plus, et donc du coup, les molécules, elles tournent et tournent et tournent, et puis, bon, du coup, ça amène des problèmes. Voilà, c'est facile à comprendre. Et pour les mêmes raisons, ben, voilà, les insuffisants rénaux, là aussi, ils ont aussi beaucoup de choses, beaucoup de difficultés à éliminer par les reins, et puis les troubles neurologiques sont à écarter, c'est ce que je vous ai dit. Alors ensuite, ce sont les incidents. Voilà, alors, il y a plusieurs sous-catégories, hein, bien sûr. Je vous en donner quelques-unes pour que vous voyez un petit peu. C'est pas à prendre tout à fait à la légère. Donc, là aussi, lorsque vous avez un proche, il faut aussi l'observer, quoi, et puis de voir qu'il y a tout un tas de remaniements qui vont se produire. Alors, bien entendu, au bout de quelques années, alors ça devient assez diabolique, on va le voir. Et bien souvent, les familles disent ah, mais oui, mais c'est l'hôpital qui l'a rendu malade. Pour une raison simple, c'est qu'ils oublient pourquoi il est à l'hôpital, quoi. Et ça, c'est. Je peux vous dire, de l'intérieur de l'hôpital, c'est vraiment épouvantable d'entendre ces arguments, quoi. Voilà, depuis qu'il est à l'hôpital, il est vraiment complètement fou. Oui, bon, il ne fallait pas mettre. Voilà. J'insiste pas. Alors, première chose, c'est l'indifférence psychomotrice. Voilà, c'est-à-dire, bon, dans les actes, c'est un peu nonchalant. Et la première chose qu'on voit débarquer, c'est la neutralité émotionnelle. Voilà. C'est-à-dire, ils ne ressentent plus rien, ils n'ont plus goût à rien. Bon, ça veut dire que ça tape sur les systèmes affectifs, et donc, l'amygdale et tout le reste, quoi, hein, tout le système limbique est paralysé, quoi, parce qu'il a besoin de la dopamine, et comme on verrouille tous les récepteurs, bien entendu, la vie n'a plus beaucoup de couleurs. On est tout dans le gris et c'est une souffrance qui s'installe. À la place d'avoir des hallucinations avec des trucs qui étaient des fois marrants, ben là, c'est pas marrant du tout. La deuxième chose, comme vous avez compris, il y avait beaucoup de sédation. On étudie les sédatifs là, pour cette année, la somnolence. Donc à ce moment, en règle générale, les psychiatres ont l'habitude de prescrire 3 fois par jour, matin, midi et soir. En gros, alors 1-1-1, par exemple. Bon, alors s'il y a des somnolences, un demi le matin, rien à midi, et puis 3 le soir, plutôt. Voilà, ça en décale. Bon, il peut y avoir une forte chute de la vigilance, pouvant aller jusqu'au coma, ou syndrome confusionnel, voire à l'agitation, car les neuroleptiques sédatifs ont des propriétés anticholinergiques. Voilà, c'est-à-dire, les neuroleptiques ne se contentent pas d'aller agir sur les neurones à dopamine, mais aussi d'aller exciter les neurones acétylcholine, et puis les autres. Et puis, de toute façon, les neurones à dopamine sont eux-mêmes en équilibre avec ceux qui sont acétylcholine, et eux-mêmes en concertation avec ce GABA, etc. C'est-à-dire, vous avez des boucles qui se renforcent mutuellement. Donc, bien sûr, là, je peux vous dire, la cheftaine, ça ne s'appelle plus cheftaine, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais cadre infirmier, elle a l'œil. Hein. Bon, les manifestations anxieuses, donc, bouffées d'anxiété, en quelque sorte, les hallucinations et les angoisses psychotiques sont remplacées par d'autres angoisses. Réaction psychotique, c'est assez paradoxal, mais c'est surtout au début du traitement, tout simplement parce que certaines fonctions sont inhibées, c'est vrai, d'autres sont au contraire exacerbées, c'est-à-dire il y a des ajustements, il faut un mois au moins pour stabiliser les choses. Crise anxieuse due aux effets secondaires suivants. Alors voilà donc pourquoi il y a des manifestations anxieuses. Voilà, alors, donc là, c'est des petites lettres, le troisième. L'impatience motrice, les synesthésies pénibles, par exemple, vous prenez une patiente qui, toutes les fois qu'elle passait à la hauteur des cuisines, quand il y avait les fourneaux et autres, elle disait, je sens des courants électriques dans les fesses. Je ne sais pas si c'est le cuisinier. Mais enfin, ça s'appelle des synesthésies, c'est-à-dire des sensations. Ils n'ont pas lieu d'être, comme si c'était encore des hallucinations, mais elle est complètement persécutée, donc elle ne veut plus passer par cet endroit. Pour aller au réfectoire, on passe devant, il faut faire avec. Des remaniements somatiques induits par les effets neurologiques, si le traitement se prolonge, le syndrome dépressif d'allure mélancolique se manifeste, d'où la nécessité de contrer cet effet dépressif par des antidépresseurs. Voilà, on a comme ça, un certain nombre d'usines à gaz qui commencent à se monter. Alors, une autre manifestation, l'obnubilation, l'asthénie physique et psychique et la confusion liés toujours aux effets anticholinergiques. La deuxième catégorie, à côté de cette impatience motrice que l'on avait vue, ce sont les troubles neurologiques. Alors ça, c'est plus sérieux encore. Ça veut dire qu'on va jouer sur un certain nombre de noyaux qui vont avoir les effets qu'on veut. Par exemple, le premier d'entre eux, c'est le syndrome d'imprégnation neuroleptique. Donc, au tout début du traitement, donc on a quelque chose d'assez précoce. Donc, il va falloir rassurer le patient pour lui dire « ça va passer ». Il faut patienter, c'est pas très facile à négocier. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un pseudo-parkinsonisme, c'est-à-dire... Puisqu'on bloque la dopamine, ça fait exactement comme la maladie de Parkinson, qui correspond au blocage de la dopamine. Voilà. Pouvant se manifester dès l'administration d'une requête, dès le premier jour, deuxième, troisième. Alors, comment ça se manifeste? Ben voilà, il y a plusieurs possibilités. Primo, la kinésie. Donc, toujours la même construction du mot A, privatif, par rapport à kinésie. Kinésie, c'est le mouvement. Donc, la difficulté dans certains mouvements. Surtout avec Majeptil et Aldol, à forte dose, la marche très ralentie, les mimiques faciales inexpressives, l'écriture devient micrographique et difficile. Alors, à côté de la kinésie, on a l'hypertonie. Évidemment, au lieu d'avoir un tonus assez souple, assez adapté à l'action, là, on est toujours, toujours crispé. Hypertonie, en quelques jours, c'est surtout la face qui est touchée, les muscles frontaux et péribucaux, c'est-à-dire autour des lèvres, en quelque sorte. Alors, c'est le nerf numéro 7 qui est touché. Il y a aussi le signe de la roue dentée qui se manifeste si l'on bloque le mouvement du poignet. Alors, par exemple, voilà, bon, si je fais ça, là, voilà, demande au patient de retenir mon bras. Ben, voilà, j'arrive à faire ça. Bon, voilà, je retiens, mais bon, j'arrive quand même à forcer. Bien, là, dans la roue dentée, ça va vous donner. Voilà, c'est bon. Et forcément, quand vous faites quelque chose, vous avez l'impression de devenir une machine. De même, les membres inférieurs montrent une exagération du réflexe de posture. Les jambes partent toutes seules, quoi, en quelque sorte. Alors bon, forcément, il y a une dépersonnalisation qui apparaît. Quoi. Donc, le patient est plus que mal. Quoi. Je ne me reconnais plus, je ne reconnais plus mon corps. Il ne réagit plus comme auparavant, etc. Bon, vraiment. Alors ça vient bien entendu inquiéter. Ils ne sont pas adaptés à avoir ces types d'hallucinations. Quoi. Alors, aussi l'hyperkinésie. Et alors, bien sûr, c'est pas fromage ou dessert, là, ça peut être fromage et dessert. Hein. L'hyperkinésie, tremblement des extrémités, non, ben, ça ressemble au Parkinson, en gros. Akathisie, impossibilité de rester assis. Donc, du coup, ils sont toujours en train de déambuler, ils sont toujours debout, en train de faire les 100 pas sur le couloir, ils se rentrent dans les uns dans les autres, etc. On ne peut pas leur dire, bon, restez un peu calme. Non, non, mais il s'agit, c'est les effets de l'hyperkinésie, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en mouvement, un mouvement brownien, difficile de rester assis, prismus, c'est-à-dire ouverture de la langue, de la bouche avec protrusion de la langue qui refuse de rentrer. Voilà, hein, c'est-à-dire, bon, c'est tout le mouvement. Vous êtes déjà crispé sur l'orbiculaire des lèvres, mais en plus la langue veut sortir et vous n'arrivez pas à la rentrer, et du coup, bon. Alors, ils se regardent dans la glace, ils se font peur. Bon, oui, un peu le. C'est pas simple. Torticolis, alors, hein, de toute façon, on le dit. Squeeze, oculogie, c'est-à-dire des mouvements des yeux en tout sens et en l'air. Manifestation paroxystique, elle rappelle les manifestations hystériques, et c'est temporairement à la contre-suggestion. Encore faut-il pouvoir suggérer quelque chose de sympa. Alors, mais elles sont très angoissantes et nécessitent le recours. Ah, bien entendu, puisque c'est un pseudo-parkinsonisme, bah, on met des anti-parkinsoniens, quoi, hein, voilà, bon, donc on est reparti par un tour, voilà. Tous ces symptômes rendent le sujet très réticent vis-à-vis de ce médicament, d'où l'adjonction d'akinétone retard, de Dispan ou d'Artane, qui sont les anti-parkinsoniens, mais dans la plupart des cas, un ou deux comprimés d'Artane à 2 mg sont suffisants, mais ces substances atropiniques ont leur propre contre-indication, essentiellement glaucome, et l'adénome prostatique. Il y a un risque de syndrome confusionnel chez le patient âgé, même un peu plus. Voilà. Alors, bien entendu, en plus, l'artane est un hallucinogène, donc c'est ça le paradoxe, c'est que le neuroleptique est donné à cause des hallucinations, mais il déclenche des effets secondaires pseudo-parkinsonisme qui doit être contré par de l'artane qui déclenche d'autres hallucinations. Là, vraiment, on y perd un peu son latin, quoi. C'est facile à comprendre. Bon, alors, ça, c'est pseudo-parkinsonisme. Alors, il y a un autre mal qui guette, ce sont les dyskinésies tardives. C'est-à-dire, vous avez des sujets qui sont chroniques, c'est-à-dire, ils sont dans le service depuis 25 ans, ou 30 ans, ou 35 ans, et donc, ils ont vraiment bouffé beaucoup, beaucoup de neuroleptiques. Alors donc, là, ça vous donne le parkinsonisme, mais au bout de 20 ans, 30 ans. Et donc, ça s'appelle, selon les dyskinésies tardives, DT, dans le langage codé. Accident neurologique, chronique, trouble apparaissant après plusieurs années de traitement. Nouveau paradoxe, les dyskinésies tardives sont induites par les neuroleptiques et sont améliorées qu'en augmentant les doses. Ça veut dire que c'est une défense par rapport aux neuroleptiques, donc ça veut dire pour arriver à être toujours efficace, il faut donc en rajouter. Mais c'est l'escalade des symptômes, les dyskinésies tardives deviennent encore plus conséquentes, ou bien on diminue les doses, mais à ce moment, c'est la reprise des symptômes psychotiques. Voilà, donc il faut trouver un équilibre, même en changeant. Alors, au niveau buccal, par exemple, eh bien, c'est un syndrome assez drôle. Il s'appelle le Rabbit Syndrome. Je vous le dis, son nom l'indique exactement. Vous connaissez les lapins, hein, c'est comme ça. Les mouvements de rongeurs rapides, leurs grandes dents et leurs grandes oreilles, et incessants, mouvements involontaires, répétitifs, irréguliers et de fréquence lente. Les demi-secondes à 2 secondes. Voilà. Donc, alors, vous avez toute une table qui vous rumine comme ça, là. Vraiment, je peux vous dire, là où vous avez bien besoin de votre séance hebdomadaire. Très souvent, il y a des mouvements de succion, claquement des lèvres, mâchonnement, gobage, mimique variée, protrusion de la langue. Alors, tout se passe comme si le patient, grimaçant de toute sa face, se livrait à une mastication de sa propre langue. Donc voilà, tout se passe comme si le patient, grimaçant de toute sa face, se livrait à une mastication de la langue, de sa propre langue, laquelle ne cesse de s'y dérober que pour mieux s'y prêter. C'est vraiment la quadrature du cercle. Alors bien sûr, au niveau de la musculature axiale, c'est-à-dire le squelette, avec une sorte de balancement, de dandinement qui s'apparente à une danse du ventre. Bon, là aussi, c'est sympa. Les extrémités des membres s'agitent, mouvement de pianotage, pseudo-choréo-athétosique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la choré de Huntington, c'est la danse de Saint-Guy. Alors bon, athétosique, ça donne à peu près ça. Autant vous dire, ils sont conscients de ce qui se passe. Et là, c'est épouvantable, ouais, complètement transformé, bien sûr. Non, mais on comprend le drame, c'est que bien souvent, les psychotiques arrêtent leur traitement. Donc, comme le traitement est bien stabilisé, je suis normal, quoi. Hein. Donc, bon. Et puis, 3 semaines après, il a son billet de sortie et puis les hallucinations peuvent repartir et puis il peut avoir une crise de parano et puis flinguer des gens. C'est facile comme tout. Hypotonie au niveau du tonus musculaire, apparition du syndrome choréique, encore la chorée de Huntington, qui impose l'arrêt de la cure malgré le fait que seuls les neuroleptiques sont capables de corriger ces symptômes choréiformes. C'est le paradoxe, quoi. Alors, bien sûr, il y a tout un tas d'autres troubles. Je vous en ai parlé. Si système nerveux autonome. Bien sûr, alors l'effet végétatif dû à l'action bêta-bloquante ou bêta-adrénolytique, c'est l'hypotension orthostatique. Alors ça, voilà, bon, par exemple, nouveau. Ces neuroleptiques entraînent souvent cette hypotension orthostatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes couché, si jamais vous relevez très rapidement, à ce moment-là, vous avez une chute de tension, et hop, Alors, donc, forcément, ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de surveiller le patient en disant non, relevez-vous progressivement, c'est-à-dire asseyez-vous sur votre lit, et puis ensuite, vous tenez, puis vous vous levez. Il faut changer tous les gestes, quoi. Sinon, il part dans un vertige et il tombe. Et, bon. Les problèmes qui se posent. D'où le risque avec les médicaments anti-hypertenseurs, surtout sensibles avec les phénothiazides et les parasympatholytiques. Donc, là, c'est la sécheresse de la bouche, la constipation, rétention d'urine, trouble de l'accommodation. Problèmes oculaires, augmentation de la pression intraoculaire, les glaucomes, hypotension qui peut conduire à l'alignement. Donc,
ça veut dire qu'en permanence, il faut leur dire de boire, il faut leur donner beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, etc. Comme il y a la constipation, il faut donner des yaourts un peu spéciaux, machin. Enfin, donc, ça veut dire qu'il faut rechanger tout le régime alimentaire, presque un régime à part, pour contrer ces ennuis dus au système nerveux autonome, para ou symptômes.
Bon, alors il peut y avoir même des tachycardies, hein, c'est-à-dire bon, vous avez le palpitant qui double de fréquence, ou la réserpine, normalement elle est plus utilisée, qui donne des bradycardies, etc., etc. Enfin, bon, voilà, c'est quand même pas intéressant.
Alors peut-être, j'avais eu une question, je crois, la semaine dernière sur un problème sur les perspectives au niveau génétique. Et donc, j'ai retrouvé la plaque, donc je vais vous faire un commentaire. D'abord, sur un petit peu le métabolisme de la dopamine, pour pouvoir répondre. Donc, vous rappelez que pour comprendre l'action du neuroleptique, il faut se placer au niveau de la synapse, c'est-à-dire la rencontre entre deux neurones. Donc, quand on a une synapse, on a une région qu'on appelle présynaptique, une fente, ici, et puis la région postsynaptique, qui est là. Voilà. Donc, l'influx nerveux arrive par ici, les ions calcium rentrent dans la région présynaptique et va provoquer des remaniements sur les vésicules synaptiques qui contiennent les molécules de dopamine qui vont à ce moment pouvoir être libérées dans la fente synaptique. Voilà. Mais cette fente synaptique, en quelque sorte, va dispatcher la dopamine en règle générale, en direction du récepteur à dopamine. Voilà, donc, vous avez la dopamine qui est ici, et les transporteurs vont l'amener sur le récepteur de la dopamine ici. Mais, il n'empêche que si le récepteur n'est pas touché, alors à ce moment, vous avez des enzymes qui vont détruire cette dopamine pour que le signal reste propre, comme on dit, hein, c'est-à-dire efficace. Il n'y a pas d'interférence avec de la dopamine qui vienne d'ailleurs, qui contamine le récepteur, pour que le signal soit toujours parfait. Et l'enzyme qui est chargé de dégrader ces molécules perdues, en quelque sorte, c'est la catéchole orthométhyltransférase. Alors ça, bon, c'est un nom un peu compliqué, mais enfin, qui se comprend très bien. C'est-à-dire ça permet de désactiver cette dopamine, et le plus simple, c'est de garder l'initiale, et l'initiale, c'est la COMT. Voilà. Catéchol orthométhyltransférase. Voilà. Et donc ça, vous rappelez que c'est l'enzyme
qui est capable de dégrader la dopamine dans la fente synaptique. Alors voilà, ça c'est juste le rappel pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est que cette SOMT. Et puis, alors à ce moment, revenons à la clinique. Lorsque les généticiens font les études, bien entendu, ils vont dans les familles où il y a un psychotique et puis ils analysent non seulement le patient, mais les frères, les sœurs, les pères, grand-mères, les enfants, etc. Et là, on cherche qu'est-ce qu'il y a de commun dans la famille, d'une part, et puis dans d'autres familles de psychotiques. Donc, voilà, c'est une étude comparative pour trouver qu'est-ce qu'il y a de commun du point de vue du matériel génétique. Eh bien, là, un certain type d'étude a montré que c'était sur le chromosome 22 que l'on trouvait quelque chose. Alors, c'est quelque chose, voilà, le petit bras du chromosome 22, il est là, on l'appelle P, P comme petit, et puis inverse de P, c'est Q, et donc on l'appelle petit Q. Et voilà, peu importe. Ça, c'est les mathématiciens qui nous ont donné ce petit rigolade. Et donc, bien entendu, on va pouvoir analyser les séquences des gènes qui sont ici et on va pouvoir comparer plusieurs patients schizophrènes. Alors, donc, on a plusieurs séquences où il y a des choses qui. Bon, ce sont des segments, là, que vous avez ici aussi. Et ça vous permet d'avoir un certain nombre de choses. Et puis, c'est un peu gros, je le passe en deux fois. Et donc on cherche les zones qui pourraient avoir des mutations communes, en quelque sorte. Et donc, voilà, chez un premier patient, deuxième, troisième. Alors, premier patient, voilà, les mutations concernent tout ça. Deuxième patient, les mutations concernent tout ça. Troisième, tout ça. Donc, la plus petite zone commune qui semblerait concernée par la schizophrénie, c'est bien sûr ce qui correspond aux trois. Hein, donc, c'est cette zone-là. Voilà, bon, voilà, c'est ça. Hein. Donc, ben, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Voilà. Alors, tel gène. Et puis le gène qui commande la SOMT. Voilà. C'est-à-dire le gène qui commande justement l'enzyme. L'enzyme qui va venir détruire la dopamine. Donc là, ben, forcément, là, on a un indice que oui, il y a peut-être bien quelque chose qui déconne au niveau d'une protéine, la protéine qui va donner naissance à la SOMT. Et donc, à ce moment, ben, il y a présomption d'avoir peut-être quelque chose à cause. Ça vous donne une petite idée de comment on procède.
La découverte date de quand ?
Oh, elle est déjà ancienne, 15 ans. Peut-être, j'ai évoqué tout à l'heure les D2, donc je vous donne peut-être un tableau qui permet un petit peu de vous représenter aussi comment on cherche. Parce que pendant longtemps, on savait que c'était la dopamine, donc on arrosait tout. Et puis progressivement, on s'est aperçu qu'il y avait un candidat plus favorable que les cinq récepteurs, c'était le D2. Donc ça permet de prévoir des médicaments qui vont aller spécifiquement cibler le D2 et non pas le D1 ou D3 ou D4 ou D5 pour essayer de réduire les effets secondaires, bien entendu, hein, pour arriver à trouver juste la cible qui va permettre de bloquer le symptôme de la schizophrénie lui-même, c'est-à-dire les hallucinations et le délire. Alors, voilà, comparaison des sous-types des récepteurs à dopamine. Donc là, c'est les deux premiers qui sont étudiés. Donc, si on prend l'AMP cyclique, qui est un élément essentiel pour les cellules, on voit que le D1 l'augmente et que le D2 le diminue. Si on prend maintenant les agonistes de la dopamine. Bah, bien entendu, la dopamine est un agoniste pur, mais faible pour D1, et là, pour D2, c'est un agoniste pur, puissant. Si on prend l'apomorphine, c'est un agent partiel faible, et là, un agoniste pur, puissant. Si maintenant on prend alors les antagonistes, c'est-à-dire les substances qui vont avoir un effet inverse de la dopamine. Et c'est ça que ça signifie. Agoniste, c'est-à-dire le même effet, antagoniste, c'est-à-dire qu'il y a un effet contraire. Les phénothiazides sont puissantes sur D1, puissantes sur D2. Les thioxanthènes, donc une autre famille de neuroleptiques, puissant, puissant. Butyrophénone, faible pour D1, puissant sur D2. Balsamide, inactif et faible. Alors, donc ça, bon, ça c'est de la biochimie, hein, donc ça permet un petit peu de comprendre que les neuroleptiques ont des actions antidéficitaires, ou bien plutôt sédatifs, ou bien plutôt moyens, ils vont agir sur le D1, sur le D2, sur le D3, ou le D4, ou le D5. Alors, une autre façon d'aborder, c'est toujours un petit peu de la biochimie, hein, mais comprendre comment on raisonne pour essayer d'être efficace, plus efficace. Bien sûr, les récepteurs à dopamine peuvent eux-mêmes avoir une fonction qui varie. Alors à ce moment, ils sont ou bien hypersensibles ou bien hyposensibles. On a un certain nombre de substances qui augmentent la sensibilité. Voilà. Agent ou facteur générateur d'une hypersensibilité dopaminergique. Par exemple, les estrogènes. Voilà. La prolactine, la neurotensine, les CCK. Accroissement chronique du GABA, traitement chronique par des imipramines, phénylethylamine, électrochocs. Alors, par exemple, là, donc, ça veut dire que les hormones sexuelles peuvent modifier la sensibilité des récepteurs à dopamine. Forcément, tout de suite, on commence à comprendre ce qui se passe du côté du baby blues, hein, c'est-à-dire... au moment de la parturition, il y a forcément des remaniements hormonaux, et bon, il y a ou privation, ou au contraire des bouffées nouvelles, il y a de nouveaux réarrangements, et donc à partir de ce moment-là, on comprend qu'on peut avoir ou bien des dépressions, ou bien carrément une psychose purpuréale qui se déclenche, quoi, et que donc on devient au courant au point de vue clinique, donc il faut absolument entourer la jeune mère, et puis surtout maintenant on commence à comprendre un petit peu comment ça peut s'expliquer d'un point de vue biologique tout simplement.
Alors, bien sûr, on peut raisonner de la même façon pour les autres. Peut-être une des dernières que je peux vous donner. Un petit peu cette hypothèse que je vous ai agitée sous le nez, là, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse dopaminergique de la schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fortement corrélé entre la dopamine et puis les états schizophréniques. Ben, on a beaucoup de preuves. Hein, là.
Alors voilà quelques-unes. Donc, principaux arguments en faveur d'une hyperdopaminergie des états schizophréniques. Eh bien, d'abord, c'est qu'on peut déclencher les psychoses par les amphétamines. Et les amphétamines jouent sur le métabolisme de la dopamine. Mais on peut aussi déclencher les psychoses par la cocaïne.
La cocaïne, elle aussi, touche plein pot sur la dopamine.
Aggravation par les agonistes dopaminergiques comme la L-DOPA, les amphétamines, donc voilà, l'apomorphine.
Et puis... effet dopaminergique, c'est-à-dire qu'il déclenche les syndromes dus à la dopamine, de toutes les thérapeutiques des schizophrénies, que ce soit la réserpine, le baclofène, la pomorphine, la bromocriptine, les neuroleptiques, la méthylalpha-paratyrosine, qui elle inhibe la synthèse de la dopamine. Voilà, c'est-à-dire on a un faisceau d'indices comme quoi il y a vraiment une corrélation étroite entre le métabolisme de la dopamine et la présentation de la schizophrénie. Je ne sais pas si j'insiste encore un peu.
Peut-être j'ai retrouvé la plaque qui me manquait la semaine dernière. Je vous la donne si vous voulez. Oui, c'est peut-être un petit peu long, mais ça va nous permettre de revenir sur la schizophrénie elle-même. Ce sont les signes avant-coureurs de l'entrée dans la psychose. Voilà. C'est-à-dire les premiers signes qui doivent alarmer quand vous avez un proche qui risque quelque chose. Voilà, alors, je vous les lis comme ça, parce que ça peut paraître anodin, mais quand même. Trouble du sommeil, période d'éveil à des heures inhabituelles, confusion entre le jour et la nuit. Plus repli sur soi, isolement, indifférence au milieu extérieur. Ça, je vous l'ai déjà bien pointé. Détérioration des relations interpersonnelles. C'est la suite. Par rapport à l'adolescence. Là, c'est très bien. Hyperactivité ou inactivité ou alternance entre ces deux états. Manque de concentration et difficulté prononcée à prendre des décisions. Et donc, bon, comme c'est à l'adolescence, bon, ça peut se trouver en seconde, terminale, première année de fac ou prépa ou je ne sais pas quoi. Voilà, vous avez des fois des décompensations incompréhensibles. Hein, c'est-à-dire, bon, jusque-là, tout allait bien, puis à un moment, fading, c'est-à-dire plus moyen de penser, plus moyen de rien faire, bon, couler à qui. Manque de concentration et difficulté à prendre des décisions. Intérêt inhabituel à l'égard de la religion ou des séances de culte. Bon, là, il y a vraiment un engouement, pas possible de chercher du sens à tout. Pour... Bon, on l'a déjà vu. Alors là, plus ennuyeux encore, puisque là, ça ne va pas être la schizophrénie, mais plutôt la parano. Hostilité, méfiance, terreur, réaction exagérée face à la désapprobation de l'entourage ou des membres de la famille, laisser aller dans l'hygiène personnelle, randonnée fréquente en autostop sans but précis. C'est un peu tâté, ça. Pourquoi les critères peuvent changer? Besoin compulsif d'écrire, utilisation d'une calligraphie semblable à celle d'un enfant ou de textes incohérents. Alors je vous en ai mis un petit extrait dans le Polycope, là. Alors, c'est une lettre que j'ai reçue d'une étudiante, là. Bon, alors là, bon, c'est abracadabra, quoi. Hein. C'est vraiment invraisemblable. Regard vide. Réaction affective inhabituelle, oui. Regard vide, sans expression. Regard fixe, accompagné d'une absence de clignement d'yeux, ou au contraire, de clignement incessant. Hypersensibilité au bruit et à la lumière. Changement de l'ordre au niveau de l'odorat et du goût, utilisation d'expressions et de structures de phrases inhabituelles, comportement bizarre, refus de toucher les autres personnes, port constant de gants, rasage de la chevelure ou des poils, mutilation, menace d'automutilation, etc. Alors ça, c'est les Québécois ou les Canadiens, exactement, qui ont fait la recension de tout ce qui était un peu alarmant. Bon ben voilà, peut-être juste les... Oui, je ne sais pas si j'ai le nombre de boîtes qui sont utilisées en France. Là aussi c'était un peu âgé, mais en 94, on avait 22 229 000 boîtes de neuroleptiques qui étaient consommées. Et pour faire la transition avec la suite, ben voilà le nombre de boîtes de tranquillisants, c'est d'anxiolytiques. Après, voilà 67 millions de boîtes d'hypnotiques et puis 42 millions de boîtes d'antidépresseurs. On a le pompon, quoi, hein, on est le meilleur, quoi. Forcément. Il doit y avoir une raison. Bon, voilà, ça fait que avec ce petit complément, vous avez une petite idée de comment on peut arriver à, oui, à tordre les neuroleptiques, quoi, en gros. Hein, voilà. Alors après, ben, il faut avoir la pratique. Okay. Donc si vous voulez bien, je vais un petit peu commencer à parler des anxiolytiques. Donc comme vous le savez, le monde est angoissant, pour les gens qui sont angoissés, bien sûr. Il est forcément doré pour les gens qui ont la cuillère en argent dans la bouche, quoi. C'est très clair. Quoique, pas forcément. Voilà, donc, bien sûr, c'est la question de l'angoisse. Alors, je crois que la première étude sur l'angoisse, elle date de la guerre de sécession. Voilà, je crois. Pour une raison simple, c'est que les sudistes ont pris la pâtée, je peux dire, vous savez. Mais à quel prix des deux côtés, ça a été, je crois, la première guerre totale, je crois. On a toujours dit que c'était la première guerre mondiale, qu'il était, en fait, non, d'après les historiens, alors je ne sais plus, c'est les colonnes, je ne sais plus comment, là, on détruit tout et puis on verra bien après. Les colonnes Sherman, si je me rappelle bien. Et là, les soldats de n'importe quel bord étaient terrorisés. Et donc, c'est les névroses de guerre et tout un tas de choses que Freud a étudié par la suite, hein, la guerre de 14, hein, parce qu'il avait deux fils qui étaient engagés dans ces combats. Et donc, on fait la différence entre peur et angoisse. C'est pas tout à fait la même notion. La peur, c'est lorsqu'il y a un objet extérieur qui peut mettre en jeu notre existence. Et puis l'angoisse, pour faire simple, c'est la peur de la peur. C'est-à-dire on s'imagine qu'il y a un objet qui nous menace. Et c'est bien entendu très différent. La peur, c'est raisonnable, c'est rationnel. Tandis que l'angoisse, n'est pas toujours. Il peut y avoir, bien entendu, quand vous avez déjà fait l'expérience et puis que c'est les mêmes conditions, bien entendu, vous pouvez déjà anticiper sur ce qui va se passer. Et donc, là, c'est de la conscience, c'est pas forcément de l'angoisse parce que vous connaissez la solution. Alors, bien sûr, il y a une multitude de catégories, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Je vais vous en donner juste trois. Des petites vignettes cliniques, comme on dit, hein, et pour illustrer un petit peu des cas concrets. L'attaque de panique, donc vraiment quand l'angoisse est vraiment forte, la névrose phobique, et puis les troubles paniques. Si vous voulez. Alors, ça vous donne une petite idée de comment les gens peuvent vivre cette angoisse, comment ça se présente. De voir comment on peut utiliser de la maîtrise. Alors, attaque de panique. François, célibataire, 29 ans, informaticien, a des malaises récurrents pour lesquels aucune cause organique n'a été trouvée. Et en règle générale, en psychiatrie, la règle, c'est avant de partir sur des idées vaseuses, on essaye toujours de voir s'il y a quelque chose au niveau somatique, au niveau du corps, s'il y a quelque chose que la médecine pourrait expliquer. Quand on ne peut pas expliquer, alors à ce moment on dit, ah ben c'est peut-être l'esprit. Quoi. Donc là, c'est ce qui a été fait. Voilà. On n'a pas trouvé de cause organique. Il a de grandes crises d'angoisse à répétition, sans cause déclenchante. Il ne connaît pas ce qui déclenche. Le premier malaise est survenu il y a 3 mois, lorsqu'il lisait son journal. Il éprouvait brutalement un sentiment de malaise intense, de bizarrerie intérieure, accompagné rapidement d'une impression de vertige, d'une tachycardie, le rythme cardiaque est très, très rapide, d'une gêne thoracique, avec sensation de blocage respiratoire, de douleur abdominale, de froideur et de paresthésie des extrémités et d'une transpiration abondante.
Voilà, tout le système nerveux autonome est affolé, l'ortho, le parasympathique se met en branle. Voilà. Cette angoisse donc déclenche vraiment des. Ouais, l'état stress, en physiologie.
Tous ces symptômes sont vécus dans une atmosphère de cauchemar, d'étrangeté de l'ambiance et surtout avec une sensation de mort imminente. Ils céderont au bout de 10 minutes, laissant place à une fatigue intense. 8 épisodes approximativement similaires, mais variables dans leur durée, se reproduiront, soit au domicile, soit sur les lieux de travail, l'obligeant alors à s'isoler par peur de perdre son contrôle. À l'entretien, François est chaleureux. Son discours est adapté. Il parle de ses troubles avec une certaine gêne, culpabilisé de déranger amis et soignants lors des malaises. Il éprouve depuis quelques semaines un sentiment d'insécurité et de tension psychique quasi permanente, ainsi qu'une certaine tristesse en rapport avec la crainte de survenue d'une nouvelle crise. Alors là, dans l'occurrence, ce qui a été efficace, c'est la chimiothérapie, il y a un psychiatre qui écrit cette vignette, des benzodiazépines et des antidépresseurs, les deux, donc, capitaines, ainsi qu'une thérapie cognitivo-comportementale et TTCC. Voilà, donc, cette attaque de panique a pu être jugulée avec quand même l'adjonction de benzodiazépines, d'antidépresseurs et puis d'un accompagnement au temps d'une dizaine de séances de thérapie comportementale pour essayer de réduire cette angoisse. De la réduire. Alors, prenons un autre cas, la névrose phobique. Alors, Bernadette, 35 ans, elle prend sucre pour une peur ridicule mais tenace qui depuis 6 mois envahit son existence. La première manifestation était brutale. Elle était seule à la maison avec son plus jeune enfant de 9 mois qu'elle venait de coucher. Elle entre dans la cuisine pour préparer le repas, mais au moment de couper le pain, elle ne peut saisir le couteau. Ce couteau est une sorte de petite scie. Elle a vu des dents, l'a figé sur place. Elle a repoussé le tiroir et a quitté rapidement la cuisine. Couverte de sueur, tremblante, elle doit s'allonger dans une sorte de brouillard. Un peu plus tard, elle a pu se servir d'un petit couteau. La castration, c'est pas loin, probablement, mais c'est pas que ça. Donc, elle n'a même plus utilisé un petit couteau, mais elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas ouvrir le tiroir où était rangée la scie à pain. Depuis ce jour, elle n'a jamais pu ni toucher, ni même regarder sans effroi ce couteau particulier. Au fil des jours, cette peur s'est étendue à tous les couteaux de la maison. Et donc là, on voit une généralisation. Il y a un manche et une lame, quoi. Mais elle a réussi à cacher ce problème pendant plusieurs semaines. À partir du moment où elle en a parlé, elle a constaté que la présence de son mari dans la même pièce lui redonnait la possibilité de toucher les couteaux à pain. Voilà, donc là c'est une action facilitatrice de quelqu'un, de proche, en qui elle a confiance qu'elle ne va pas faire des sottises avec son couteau, en gros. Ça vient contrer les angoisses. Quand elle est seule à la maison avec ses 3 enfants qui ont 12, 11 et 9 mois, 9 ans et 11 et 9 mois, elle est incapable de surmonter sa peur. Elle n'a pas grand-chose à dire de son enfance, sauf une peur exagérée de l'obscurité qui a persisté longtemps et une anxiété surtout manifestée dans la vie scolaire. Récemment, Bernadette avait ressenti des difficultés personnelles et elle avait décidé de reprendre son activité de secrétaire bilingue, ce qui avait entraîné des conflits importants avec son mari. elle a été enceinte d'un enfant qu'elle ne désirait pas. Pendant sa dernière grossesse, elle dort beaucoup, mange assez peu, reste très souvent allongée, sans raison médicale particulière. Elle ressent une impression de fatigue, a du mal à s'occuper de ses filles, elle refuse de connaître le sexe de son enfant avant la naissance. Voilà. Donc là, bien sûr, hein, comme c'est pas contemporain, de la dispute entre les conjoints, la naissance d'un garçon et l'histoire du couteau, il semble qu'on peut peut-être risquer des interprétations. Enfin bon, le jour de l'accouchement, apprenant qu'elle a un fils, elle s'évanouit. Les 6 premiers mois se passent bien, mais elle dort assez mal. Les 3 mois suivants, elle est fatigante et un peu triste, très préoccupée de la santé de son fils, qui pourtant se porte bien. C'est lorsqu'il y a 9 mois qu'a lieu le premier accès phobique. Alors bon, le 9 mois, c'est le temps de la grossesse, alors peut-être on peut là aussi voir le symbolique. Et donc, c'est plutôt, bon, assez couteau même. Donc, les thérapies qui ont été utilisées, ce sont, bien sûr, au pluriel, les anxiolytiques, benzodiazépines de préférence, plus antidépresseurs, alors on y verra l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, les IMAO, IMAO, inhibiteurs d'amonoamine oxydase, pourquoi les nommer, c'est-à-dire, voilà, on va toucher sur la sérotonine à ce moment. Et aussi bêta-bloquant, pendant qu'on y est, pour ne pas se gêner, comme il dirait l'animateur de la télé. Bêta-bloquant, thérapie comportementale, et en plus, pour la cerise sur le gâteau, psychanalyse. Alors là, c'est dommage qu'il n'ait pas fait les interprétations. Mais enfin, bon, là, elle a la totale, hein, là, pour le couteau, là. Vraiment, c'est. Bon. Bien, bien, bien. Bon, c'est pour vous dire. Oh, c'est quand même lourd, hein. Quand même ingurgité, quand même pas mal de choses. Quoi. Alors, dernière vignette que je peux vous proposer pour avant de... Oui, de discuter un peu plus loin un peu. Trouble panique. Voilà. Là aussi, ça. Annie, 36 ans. Force de l'âge, quoi, hein, en gros, professeur d'anglais, divorcé d'un mariage de 7 ans, vit en concubine depuis 5 ans, mère d'une famille de 2 ans. Pardon, mère d'une. Non, on va revoir. Mère d'une fille de 2 ans. Bon, voilà. Sa maladie a commencé à l'âge de 22 ans. Voilà, bon, ça fait déjà 14 ans, donc, qu'elle a son boulet. J'étais sur l'autoroute. Et soudainement, j'étais prise par des sensations d'étouffement. Je tremblais, j'avais l'impression de mourir et de perdre tout contrôle de moi-même. Ces cris d'anxiété se répétaient pendant les périodes variables de 1 à 3 mois. D'une à deux crises par semaine. Elles duraient plusieurs minutes. La plupart survenaient en dehors du lieu habituel sécurisant, comme l'autoroute, le métro ou l'avion. Les médecins généralistes expliquent que c'est nerveux. Ah, bon, ça explique tout. Ça va passer. Et d'autres que c'est une spasmophilie. Elle devient donc parfaitement dépendante. Et benzodiazépine. Donc voilà, elle se gave de benzodiazépine et elle ne peut plus faire marche arrière. Voilà, c'est ça qui est délicat, quoi, hein, c'est que elle est accro. Compagnon fidèle et rassurant lors des sorties ou dans les situations jugées pénibles, comme les espaces ouverts, les foules, la conduite seule. Depuis 6 mois, les crises se succèdent au rythme de 1 à 2 par jour. Et se complique d'un évitement de plus en plus obligatoire des situations susceptibles de favoriser leur survenue. Elle est prise une anxiété anticipatoire quasi permanente. J'avais une peur effroyable à l'idée de sortir seule avec ma fille. Elle consulte, lorsque surviennent les réveils matinaux, un état de fatigue, de tristesse et des sentiments d'autodévalorisation. La mère d'Annie présentait des crises similaires et son père s'est suicidé à l'âge de 58 ans. Donc là aussi, thérapie utilisée, le Xanax, puis Prozac, ainsi que TCC. Voilà, bon, ça vous donne une petite idée de tout ce que peuvent endurer ces patients, quoi, en gros, hein, de ces angoisses qui vraiment les tenaillent. Bon, je pousse un tout petit peu pour vous présenter peut-être les substances qui peuvent essayer de contenir ces angoisses, si vous voulez. Alors bon, il y en a toute une kyrielle, hein, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on commence à en connaître. Donc, il y a un certain nombre de noms que vous devez connaître. Je vais vous les lire comme ça, ça fait une petite litanie qui doit rentrer dans le creux de l'oreille. Puis je vous montrerai quelques structures chimiques. Alors voilà, alors plusieurs familles, bien sûr, qui sont apparues au fur et à mesure, il y a fort longtemps, début du siècle passé, les carbamates, par exemple, sont apparues, donc les méprobamates, par exemple, comme nom chimique, mais celui que vous connaissez, c'est l'équanine, ou bien le L-Odivon, calmalone, stratran, pareil. Les alcools, comme le prédone, la piperazine, comme l'atarax, on verra encore là aussi la formule, la covatine, opalène, olympax, ou le divazoactadienne, comme la pistacétine, ou bien des vieilles connaissances qui sont là aussi les phénothiazines, c'est-à-dire des antihistaminiques, au tout début, donc on revient à la borite, hein. Le péralène, le lidanil, le fénergan, et puis bien entendu la famille dans laquelle on va un petit peu s'ébattre, les benzodiazépines, dont le chef de file c'est le valium, mais librium, mogadon, franxel, cerasta, temesta, urbani, rivotril, nobrium, rohypnol, lisantia, miolastan, alcyon, et puis enfin d'autres substances qui sont plutôt apparentées aux antidépresseurs, voilà, tricyclique, l'incidon, le noveril, et puis un autre qui est encore autre, qui met bien son nom, le nirvanil. Bon, je vois qu'en fait, il manque de nous. Voilà, donc ça vous donne, en quelque sorte, des substances qui vont, en quelque sorte, bloquer l'angoisse, d'où leur nom de anxiolytique. Lise veut dire détruire, anxio, l'anxiété, sur l'angoisse. Alors, je vous donnerai quelques mécanismes sur les benzodiazépines. Pardon ? Ça fait partie du phénothiazine qu'on a vu avec les neuroleptiques. Oui, mais bon, ils ont un effet neuroleptique très important, sédatif. Le fénergan et le péralène. Mais là encore, sédatif pour certaines personnes, pour les deux tiers des humains. Mais pour un tiers, c'est un super excitant. Donc. Bon, voilà, vous avez une étude de famille. Alors, je vous montre quelques structures qui sont connues depuis longtemps. Voilà, par exemple, le tout premier, c'est le chloral. Bon, voilà, c'est assez simple. Hein. Une chaîne carbonée, de carbone, donc. Ici. Deux fonctions alcool, ici. Sur un carbone, et puis là, trois fleurs dessus. Voilà. Voilà, c'est un gaz anesthésiant, mais un petit peu anxiolytique. Et puis un autre, ben, c'est l'urétane. C'est-à-dire, une fois qu'on a une molécule, ben, on va rajouter des éléments. Et là, bien sûr, on a une fonction ester. Et ça permet de tester. On teste sur l'animal en le mettant dans des situations anxiogènes. Et puis, s'il résiste assez bien, s'il a l'air frétillant, alors seulement on pense que c'est peut-être un bon candidat. Alors après, on l'essaye sur des singes.
Et c'est un anxiolytique.
Ça, c'était les ancêtres. Et puis, voilà, celui qui est bien connu, c'est l'équanime, qui a été utilisé dans les années 50 en grande quantité, qui a entraîné beaucoup de dépendance. Ben, voilà, c'est une chaîne un peu compliquée. Hein, voilà, une croix, en quelque sorte, voilà, cette chaîne. Et puis, on rajoute ça. Et ça vous donne l'équanime. Peut-être pas la peine de trop insister, mais ça vous donne une petite idée. Le N oblivon, qui fait partie aussi de cette famille des carbamates.
Vous l'avez vu au moins une fois dans votre existence, c'est peut-être pas mal. Voilà, donc, voilà, là c'est intéressant, c'est une triple liaison, ici. Donc, 5 carbones, c'est pour nous, et puis encore une croix avec encore une fonction ester. Voilà, bon, peu importe, ça vous donne un carbamate qui est utilisé encore, bien sûr.
Alors, ensuite, eh bien, on découvre, bien sûr, les barbituriques, mais j'en parle la semaine prochaine, ces barbituriques. Ces barbituriques sont une véritable plaie, et donc, du coup, on cherche d'autres molécules qui soient pas trop loin des effets, mais beaucoup moins risqués. Ce sont les benzodiazépines. Voilà. Alors, un des premiers à être découvert, c'est le librium. Et donc, bien sûr, ce librium fait miracle, quoi, parce que il fait la nique au barbiturique, c'est-à-dire il a à peu près les mêmes effets, sauf qu'il est nettement moins toxique, c'est-à-dire avec les barbituriques on faisait des suicides, avec les benzodiazépines on ne fait plus que des TS. Non mais bon, je le dis parce que bon, c'est quand même bon à savoir, si vous n'êtes pas candidat, il ne faut pas être dupe. Et c'est ça qui a fait que les benzodiazépines ont eu un succès considérable, c'est que la dose qui est prévue pour être efficace, pour être anxiolytique, elle est 1000 fois plus faible que la dose létale, c'est la dose mortelle, quoi, en gros. Alors forcément, c'est pas un tube qu'il faut prendre, c'est 200 tubes, quoi, en gros, hein, donc, bon, faut déjà les savoir. Et donc, du coup, tout de suite, il y a quand même des recours, quoi. Hein. Bon, lavage d'estomac, et puis, on n'est jamais drôle non plus, mais voilà, on a changé de catégorie. Au lieu que ce soit des suicides, c'est des tentatives de suicide, quoi. Alors, on a comme ça gagné beaucoup de vie, quoi. Voilà, donc, le librium et ses acolytes ont eu un succès considérable. Et bien entendu, ça a attisé la convoitise des groupes pharmaceutiques. Quoi. Alors, comment faire pour trouver une molécule magique comme la première qui a été trouvée? Alors, ils ont trouvé une astuce. C'est finalement d'étudier le métabolisme du librium. Alors, le voilà, là, voilà, c'est lui, là. Hein, le chlordiazépoxide, par exemple. On s'aperçoit qu'il est très proche du nobrium. Et que finalement, il y a des chaînes métaboliques qui vont converger, comme ceci, là, différents éléments, sur le diazépam. Et le diazépam, c'est le valium, qui lui est encore plus formidable. Et puis, en continuant à chercher les chaînes métaboliques, comme on peut les voir ici, on a l'élimination urinaire. Alors là, les labos pharmaceutiques ont remonté la chaîne en disant, mais
comment se dégrade le librium, et testons les produits intermédiaires entre le librium et puis ce que l'on trouve dans les urines. Et là, on a trouvé les différentes molécules qui étaient ici et qui se trouvent par hasard être aussi efficaces, ou presque aussi efficaces, que le librium lui-même. Et que donc, du coup, ça a permis de dire, mais c'est une nouvelle molécule, je peux proposer un brevet, donc je peux mettre sur le marché. Voilà, c'est tout con. Mais le corollaire, c'est que, bien entendu, c'est toujours la même molécule. Et que donc, du coup, ne vous laissez pas raconter l'histoire que je vais changer de molécule avec les benzodiazépines face aux effets secondaires, parce que de toute façon, c'est toujours la même molécule. Voilà. Et donc, du coup, c'est bien différent des neuroleptiques. Donc, ça veut dire qu'ici, on en a déjà un certain nombre. Donc, Valium, Librium, Nobrium, Francel, Isantia, Seresta, et tous les autres. Donc, j'ai essayé de vous montrer leur photo d'identité. Voilà, alors bon, peut-être que c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais vous allez voir, leur famille, ils ont tous. Entre Librium et Valium, il n'y a pas un gros écart. Hein. Quand on regarde un peu loin, on s'aperçoit qu'il y a un cycle qui est bizarre, là, qui a du carbone, du carbone, du carbone, du carbone, du carbone, mais là, un azote, un azote. Et quand on le lit en chimiste, on a une position 1, 2, 3, 4, 5, et donc c'est la position 1, 5. Oui, 1, 5. Oui, pardon. Donc voilà, il est 1, 2, 3, 4. Non, 1, 1, 4. 1, 4. Lui, il a aussi son cycle, et il est aussi dans la même position. Lui, il est dans la même position. On voit qu'ici, il y a toujours un substituant, un oxygène. Ici, bon, bien sûr, il y a une toute petite modification, mais c'est quand même pas énorme. Il y a toujours un chlore qui est ici. Et toujours son cycle, ici, et un autre cycle, ici. Voilà, c'est-à-dire, on sait que c'est juste une molécule qui change un micropoil et qui ne change rien. Ça va rentrer dans le récepteur à GABA tout à l'heure, sans aucune difficulté. Si on prend le TMSA, on retombe sur la même structure, toujours avec le même cycle. Voilà, on voit bien que c'est quasiment un copier-coller avec un petit coup de canif dedans, c'est tout. Hein. Le TMSA, c'est la même chose. Et puis, le disanxia, c'est encore la même chose. Voilà, c'est ce qui va rentrer dans le récepteur. Et si je prends la suite, c'est la même chose, toujours de la même famille. C'est-à-dire, la différence, c'est le nom. Le nom qui correspond à un atome ou deux d'écart. Voilà, c'est-à-dire, le normison, l'alcyon, voilà, on retrouve toujours nos trois cycles, dont ce 1,4. Le Xanax également, et puis encore celui-ci là, à nouveau. Et puis là, on a une nouvelle famille qui s'écarte. Alors à ce moment, donc il y en a une possibilité, à ce moment, on a les azotes qui sont un petit peu différents. Peut-être la dernière molécule que je peux vous montrer dans ces benzodiazépines, c'est. Le Lexomil. Voilà, qui lui aussi redonne toujours ce même cycle à sept côtés, dont la position 1,4 de deux azotes, et puis il a un brome, non pas un chlore, mais un brome, et puis deux cycles à nouveau. Bon, voilà, en gros. Donc, gardez cette idée, ils sont vraiment frères et sœurs, en gros. Sans aucune difficulté à reconnaître. Alors peut-être pour finir, juste les nouvelles, nouveaux anxiolytiques non benzodiazépines. Alors là, bon, c'est des molécules plus récentes, comme l'analgésine, l'atarax, l'atrium, le buspar, la covatine, le sprezan,
c'est l'ataraxe. Ici, donc, voilà. Alors bon, c'est toujours un peu compliqué. Mais bien entendu, si vous avez une nouvelle catégorie qui est mise en exergue, ça veut dire simplement qu'on fait des critiques aux benzodiazépines et que donc les groupes pharmaceutiques essayent de mettre sur le marché des molécules qui vont avoir les mêmes effets que les benzodiazépines, mais pas les mêmes inconvénients. Et donc ça vous donne déjà un petit peu la tonalité. Et donc, si vous voulez, peut-être, je vais peut-être m'arrêter s'il y a des questions. Et puis, il faut reste à traiter maintenant l'action des benzodiazépines et puis les effets secondaires. Quoi.